Alors, Pierre-Yves, le taux directeur de la Banque du Canada est demeuré aujourd'hui à 1,75.
Et quel soulagement, Paul, pour tous ceux et celles qui ont un prêt variable comme moi hypothécaire, parce que depuis un an, on avait subi 3 hausses de 25 points de base, et puis le gouverneur de la Banque du Canada nous disait « Écoutez, chers Canadiens, Canadiennes, préparez-vous à une hausse et un retour à un taux équilibré, c'est-à-dire un taux qui n'avantage pas l'emprunteur, qui ne désavantage pas l'emprunteur. » Donc, il nous amenait dans un taux directeur à 2,5 jusqu'à 3,5. Et là, on dit, whoop, on a mis un petit peu les freins avec ce qui est arrivé vendredi. On nous a sorti des données statistiques sur la croissance relativement faible. On parle aussi de menaces de récession. Et ça influence évidemment nos marges de crédit, nos prêts marchands, nos prêts personnels. Et dans le fond, la politique monétaire canadienne, le but, c'est de rester entre 1% et 3% de taux d'inflation. Si on est là-dedans, il n'y a pas de raison d'augmenter, sauf pour se créer un coussin, évidemment, pour un retour à la baisse par la suite, mais il n'y a pas de raison d'augmenter drastiquement les taux. Et là, on a vu que les Américains ont ralenti dans l'augmentation, nous aussi. Donc, c'est peut-être parce que l'économie ne peut pas prendre ce choc-là. Mm-hmm. Et Paul, je serais prêt à mettre un petit vin. Mm-hmm. Là, c'est un petit vin bien fret, là. Que l'année 2019 risque de rester à 1,75-2. On risque pas d'avoir plusieurs hausses, selon ma lecture, parce que si l'économie va pas assez bien, c'est pas assez fort, et la hausse de 75 points de base de la dernière année a déjà été assez forte.
On va regarder ça. On va regarder ça pour l'instant. Donc, 1,75, ça devrait changer.
Exact.
Les questions maintenant à se poser avant de partager le congé parental.
Oui, il y avait un article puis des commentaires aujourd'hui sur le congé parental. Bon, les hommes le prennent moins que les femmes en général. Et puis là, on dit, ça devrait être la parité. On devrait plus balancer ça pour le bien de l'enfant. Bon, évidemment, il y a le bien de l'enfant, il y a les parents, il y a la ration d'amour et il y a tout ce qui n'est pas d'argent. Mais moi, je suis comptable, Paul. Parlons d'argent. Donc, la première des choses qu'il faut se demander, c'est de valeur en bon comptable, c'est est-ce qu'il y a un des deux parents qui a un salaire pour le congé par son employeur? C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui se fait payer pendant 4 mois, 5 mois, 1 an, jusqu'à 90, 75, 80% de son salaire par l'employeur, va pas prendre le congé à l'autre qui a pas son congé d'employeur, tu sais. Deuxième point, faut pas oublier que le revenu assurable, Paul, il est maximisé à 76 500. Donc, le pourcentage qu'on a, par exemple, 55 ou 70 ou 75% dans le cas du congé parental, du salaire assurable, c'est de 76 500. Si vous êtes à 150 000, vous ne serez pas assuré pour 70% de 150 000. Donc, faut y penser. Et l'inverse aussi, si vous êtes un couple avec un petit salaire et un salaire de 50-60 000, ben la personne qui aura le plus gros retour sur le congé parental, ben c'est le plus gros salaire quand même. Donc, ça, c'est une réflexion à avoir. Deuxième point, la nature du travail. Est-ce que votre travail, dont vous voulez avoir congé avec le congé parental, a un horaire facile ou pas facile? Si vous allez chercher des rendez-vous en après-midi, même si vous travaillez, c'est peut-être plus facile pour la personne qui a un horaire difficile de prendre le congé pour elle avoir un allègement. Il y a aussi la qualité de ton retour au travail, c'est-à-dire si tu es un syndiqué d'une convention collective, exemple, tu es prof de français. Si tu es prof de français au secondaire, c'est bien de valeur, mais manquer un an de ton salaire ne nuit pas à ta carrière. Tu reviens avec une année d'ancienneté de plus quand même et personne va t'enlever ton poste à cause de ça. Par contre, si tu es travailleur autonome, puis tu as une business, puis tu as des clients, à moins d'être capable de sous-traiter à tes employés, d'avoir un INC de créer et te dire, ben moi, pendant cette période-là, je me verserai pas de salaire, je vais avoir le RQAP, mais mon entreprise va continuer à générer de la valeur, elle, comme personne morale indépendante, là, tu peux y penser. Et il y a aussi la question de, mes clients vont-tu partir? Parce que si c'est toi la valeur de ton entreprise, tu sais, y a-t-il une relation forte qui est créée qui fait en sorte que si tu t'absentes un an, il y a une perte de clients potentiels et une perte de croissance et aussi pas le stade de ton entreprise. T'es-tu en développement ou en début ou en maturité? Si t'es au début de ton entreprise, c'est pas le temps de la laisser pour un an pour aller te faire griller avec les enfants. T'sais, je sais que c'est du travail, mais faut y penser.
Alors, c'est le volet finances personnelles. Les statistiques démontrent que le CELI est sous-utilisé, en particulier les Québécois ne connaissent pas ou enfin n'adhèrent pas directement au CELI.
Pas assez en montant. T'sais, les statistiques pour 2018, par exemple, le montant moyen cotisé dans le CELI, c'est 7 402 $ depuis le début. Là. Donc, pour un Québécois, c'est-à-dire, comprenons la chose suivante. Le CELI, te donne pas d'avantages immédiats. Et ça, c'est ce qui empêche beaucoup de Québécois. On arrive la veille de la cotisation REER maximum, de la date limite, là, puis on se dit, si je cotise à mon REER, je vais avoir un remboursement tout de suite. Donc, on voit l'avantage immédiat. Le problème, c'est qu'il faut commencer, comme Québécois, à parler de balancement de la retraite et de balancement de la stratégie fiscale et du risque. C'est-à-dire, peut-être que ça vaut la peine pour des personnes moins nanties, mais même pour une personne bien nantie, de balancer ça un peu puis se dire, je veux-tu à la retraite avoir seulement du revenu imposable ou du revenu aussi non imposable? Et si j'ai des actions qui font de fortes hausses, de façon spéculative, le REER va fortement me pénaliser. Donc, la déduction que je vais avoir eue à la cotisation va être sympathique, mais ça donnera pas tout le potentiel d'évitement fiscal légal que le CELI me procure. Donc, moi-même, Paul, le CELI, je l'ai retiré pour payer ma maison, mais je me dis, mon Dieu, que je sous-utilise le CELI à ce moment-là.
Mais peut-être que c'est pas encore, c'est encore méconnu, c'est ça?
Ben, c'est vu comme un compte d'épargne. C'est pas vu assez comme un compte de planification long terme. Et surtout, les institutions financières préfèrent te vendre, par exemple, Paul, je vais te vendre un prêt REER. Tu vas maximiser tes REER. Avec ton retour d'impôt, rembourse ta marge de crédit ou crée une nouvelle marge. Donc, tu comprends, l'avantage pour l'institution financière que tu as un CELI est intéressant. Mais comme tu vas cotiser avec de l'argent net,
on a le droit
à beaucoup moins que de l'argent brut.
On a le droit à chacun, ben enfin chaque personne qui contribue à un CELI, la limite est de 63 000.
Oui, et 6 000 $ pour 2019, Paul. Mais tu sais, évidemment, en plus, c'est que...
Tu veux dire en 6 000 $ que tu peux déposer dans 2019?
Ah, tu peux pas cotiser tout ce que tu n'as pas cotisé, mais si, mettons, il était déjà rempli,
oui.
Le plafond supplémentaire qui s'ajoute en 2019,
okay.
6 000 $ Mais okay. Paul, c'est pas à la portée de tous, je suis d'accord.
Ben oui.
Une fois que tu as payé ta maison, tes enfants, la garderie, le RE, assurances, chauffeur, de l'hydro, puis là je te dis, remplis ton REER puis ton CELI. Je sais que je suis dans un no man's land, Paul.
Tu ne nages pas dans les liquidités là,
là je nage dans le plâtre, Paul, le plâtre.
Je vois ça un petit peu là, c'est pas tout le monde qui a ce luxe.
Exact. Mais c'est un choix à y réfléchir.
Bien sûr. Merci beaucoup Pierre.
Salut Paul.
À demain.